Mesdames, Messieurs, je suis extrêmement honoré de parler aujourd'hui devant vous et je rougis de tout ce qu'a pu dire sur un simple hasard familial mon ami François Labadins. Je remercie également Alain Pagès et François Labadins de m'avoir donc invité aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de la panthéonisation d'Émile Zola, mais comme vous le savez, comme il y a eu au moins déjà 200 000 personnes qui ont visité l'exposition du Panthéon, la magnifique exposition, hein, et que, également parmi vous, il y a certainement des personnes qui ont assisté au colloque du Panthéon au mois de juin, qui ont lu l'excellent ouvrage publié à ce moment-là par Alain Pagès, Émile Zola, de J'accuse au Panthéon, et que peut-être également certains ont bien voulu lire mon livre paru au même moment, Zola au Panthéon, la quatrième affaire Dreyfus. Je n'insisterai pas trop sur les détails de la cérémonie. Je préfère axer mon propos sur ce qui a retardé d'une façon absolument unique dans toute l'histoire des panthéonisations, la panthéonisation d'Émile Zola. C'est un cas absolument unique et ces retards n'ont rendu que plus miraculeuse la réussite de cette panthéonisation, car les obstacles, les empêchements étaient considérables. Donc c'est à la fin d'une des séances les plus mémorables de l'Assemblée de la Chambre des députés, le 13 juillet 1906, au lendemain de la réhabilitation et de la déclaration d'innocence totale d'Alfred Dreyfus par la Cour de cassation, qu'a eu lieu donc un grand débat très long à la Chambre. Au cours de ces débats, ont été réintégrés dans l'armée, vous le savez, d'une part par des lois, d'une part le capitaine Dreyfus, et d'autre part, évidemment, le lieutenant-colonel Picard. Simplement, Picard a été nommé général, alors que Dreyfus, qui aurait dû au moins être nommé lieutenant-colonel, n'a eu droit, vous le savez, qu'au grade de commandant, ce qui est un véritable scandale, qui reste d'ailleurs assez mystérieux. Donc, à la fin de la séance, tout le monde est déjà un peu fatigué, on passe à la discussion d'un projet de loi dont on demande la discussion en urgence. Il est déjà tard. Cette proposition de loi est formulée de la façon suivante. Article unique. Les cendres d'Émile Zola seront transférées au Panthéon. Un décret rendu par le président de la République sur la proposition du ministre de l'Instruction publique fixera la date de la cérémonie. L'auteur de la proposition, Jules-Louis Breton, député socialiste du Cher, figure très remarquable du Parlement, avait déjà déposé ce texte le 2 décembre 1902 en compagnie de Pressensé, Jaurès, Buisson, Samba, quelques autres, mais sans aucun succès. À présent, au nom de 30 députés socialistes, dont les mêmes qu'en 1902, il se faisait, citation, « un devoir de reprendre cette proposition au lendemain du jour qui a enfin marqué le triomphe éclatant et définitif de cette œuvre grandiose de vérité, de justice et d'humanité dont Zola fut le grand et le plus héroïque artisan. » L'un des premiers, il dénonça les monstrueuses infamies que cachait l'affaire Dreyfus. Loin de s'enfermer comme tant d'autres dans un étroit et lâche égoïsme et de se contenter de déplorer dans l'intimité les iniquités commises et les crimes accomplis, Zola se jeta courageusement dans la mêlée pour défendre la justice. Pour défendre la justice et la vérité. Plus que tous ses chefs-d'œuvre, cette ferme, courageuse et admirable attitude fera de Zola une des plus belles et des plus grandes figures de l'histoire de notre époque. La Chambre s'honorera en rendant aujourd'hui même cet hommage posthume à cet homme de bien, à ce grand citoyen dont le souvenir planera sur les générations futures dans l'immortalité du génie et du courage civique. Curieusement, la proposition qui peut paraître scandaleuse pour l'opposition est votée à une forte majorité, 344 voix contre 210, sans aucune discussion. Aucun député de l'opposition ne demande la parole, alors qu'ils avaient pris la parole auparavant, contre les lois relatives à Dreyfus, contre la loi relative à Picard. Proximité des vacances, nous sommes à la veille du 14 juillet, fête nationale, tout le monde a envie de partir. Est-ce que c'est l'accablement devant une journée triomphale pour les Dreyfusards et la majorité socialiste issue des élections récentes, ou encore des espoirs placés dans le Sénat, ce même 13 juillet. En tout cas, quand la proposition de Jules-Louis Breton arrive au Sénat, le même jour, il est 19h. Trop tard, devant un effectif trop faible, et le décret de clôture de la session tombe. Il faudra attendre la rentrée d'octobre. Stupéfaite par le vote de la Chambre, Alexandrine, la veuve de Zola, déclare à Fernand Desmoulins qu'elle s'oppose formellement à cette loi. Elle veut être enterrée avec son cher mari dans le même caveau du cimetière Montmartre. Théodore Duret, vieil ami de Zola, furieux de ce refus, menace de rompre avec elle si elle persiste dans cette résolution. Alfred Bruneau est accablé, désespéré, mais pas question pour lui de rompre avec Alexandrine. Denise, la fille de Zola et de Jeanne Roseveau, est flattée par l'honneur, mais elle est consciente du déchirement occasionné chez Alexandrine, qu'elle appelle bonne amie. Dès l'annonce du vote à la Chambre, la droite proteste dans ses journaux et par voie d'affiche. Le débat au Sénat s'annonce acharné, même si Clémenceau, devenu président du Conseil le 25 octobre 1908, est un partisan absolument inconditionnel de Zola et qu'il tient en main solidement sa majorité. Le 20 novembre 1906, le sénateur Boissy d'Anglas lit son rapport préliminaire. « Ce n'est pas pour son mérite littéraire, d'ailleurs immense, que semblable proposition vous est faite. C'est uniquement pour un acte de courage civique, grand et tragique, comme les circonstances au milieu desquelles il s'accomplit. » Voilà une curieuse manière d'escamoter l'écrivain, en le rapprochant plutôt du Voltaire qui défendit Calas, Sirvin et Labarre, que de l'auteur des Misérables. Le rapport est adopté, mais le 6 décembre, voilà que le sénateur de la Lozère, le comte Emmanuel de Lascazes, fait une proposition de loi tendant à ne décerner à un citoyen les honneurs du Panthéon que 10 ans après sa mort. C'était le décret de la Constituante. Le Sénat, décembre 1906. C'est une séance capitale, tant par la qualité et l'âpreté des arguments échangés que par l'éclatante intervention de Clémenceau, non prévue, mais décisive pour remporter la victoire finale. La droite attaque avec une redoutable vigueur par la voix de deux de ses meilleurs orateurs, avocats rompus aux joutes les plus longues et les plus ardues, le comte de Lascazes, déjà nommé, élu en 1903, catholique fervent, adversaire farouche des lois laïques et défenseur de l'Église. Son compère est le sénateur du Finistère, comte de Chamaillard, très catholique et monarchiste. La proposition, 10 ans d'attente, est rejetée. On passe à la loi votée par la Chambre. Zola est coupable d'avoir rendu plus difficile la révision en raison de la brutalité, citation, inutile de J'accuse. Accusation, citation, mal conçue, mal pensée, mal comprise, sortie du terrain judiciaire pour porter l'affaire sur le terrain politique. Zola s'est conduit en malfaiteur, en jetant la France dans le trouble pour des années. Bref, la faute de Zola, c'est d'avoir créé les Dreyfusards. Au passage, Lascazes fait une apologie effarante du procès Esterhazy. Croyant avoir pulvérisé Zola, auteur de J'accuse, Lascazes, habilement, en vient à Zola romancier. Car, dit-il, le jour où il irait au Panthéon, il n'y aura pas que l'homme politique qui y entrera, il faudra bien que l'écrivain y entre aussi. « Demandez-le huis clos !» s'écrie un sénateur. La gauche n'est pas trop à l'aise sur ce terrain, sachant la férocité des controverses sur Zola romancier. Les deux compères le savent très bien et s'empressent d'exploiter leur avantage. Certes, Zola a un art très grand et très puissant. Certes, la conception des Rougon-Macquart est féconde, grande, géniale. Certes, le vice est puni dans l'Assommoir ou Nana. Certes, il y a donc quelque chose de moral dans l'œuvre de Zola. Mais les reproches pleuvent aussitôt. Zola a calomnié toutes les classes sociales. Très applaudi par la droite et le centre, Lascazes fustige le paysan de la terre. Ce paysan bestial, cupide, parricide, luxurieux. Est-ce que ce paysan-là est bien le paysan français? Il est ardent à l'amour, soit. Mais nous lui devons les belles filles, qui sont l'avenir de nos générations, et les solides gars, qui sont la gloire, qui seront aussi la force et l'indépendance de la patrie. Sonne éclairon. Et Lascazes d'appeler en renfort Anatole France, le grand Dreyfusard, pour abaisser Zola, en rappelant la fameuse formule « La terre, les géorgiques de la crapule ». On sait très bien que Anatole France s'est un peu vengé de critiques de Zola à l'époque où Anatole France était parnassien. Zola avait écrit un article sévère, et évidemment Anatole France lui avait renvoyé la balle en 1887. Pour plaire à son camp et aux familles, il lance à la gauche. Pontier, si ce soir votre fille vous dit « Papa, vous venez d'envoyer M. Zola au Panthéon, cela doit être un bien bon écrivain, donnez-moi donc à lire de ses livres. » À quoi Boissy d'Anglas, malicieux, rétorque, Vous ne lui donneriez même pas non plus la Bible à lire. Lasca, sans remettre en question explicitement l'arrêt de la Cour suprême, soutient contre l'arrêt même, mais indirectement, qu'il n'y a jamais eu de crime fomenté par l'état-major. Donc, Lasca demande au Sénat de ne pas voter les honneurs du Panthéon, parce que, dit-il, ce serait renouveler l'affaire, parce que cela paraîtrait dans une certaine mesure, attention au terme, des représailles. Et que dans des affaires de cette sorte, le meilleur moyen d'apaisement, c'est d'éviter des représailles. La contre-attaque est lancée au nom de la majorité radicale socialiste par le sénateur du Cantal, le radical Lintilhac, ancien maître de conférences, auteur de travaux littéraires, réputé grand connaisseur de Zola. Il n'entend pas du tout s'en tenir comme Boissy d'Anglas au seul J'accuse, mais au contraire, à réunir le romancier et le pamphlétaire, à les exaucer l'un par l'autre à une hauteur digne du Panthéon. Il exalte le génial auteur des Rougon-Macquart et le grand citoyen, tout en stigmatisant, citation, les insultes effrénées de la presse de mensonges et de haine qui se sont déversées hier et qui feront rage demain. Chamaillard, le monarchiste, nullement déconcerté, se lance à son tour à l'assaut en déniant à J'accuse un simple article de journal le mérite d'une panthéonisation. Il attaque violemment l'œuvre romanesque qui charrie, citation, un fleuve trop large de boue, d'immondices et d'obscénités, et qui a, scandale, propagé cette plaie honteuse, odieuse, cette gangrène hideuse de la pornographie littéraire. Et lui aussi invoque Anatole France et son article sur la Terre. On se prépare à voter quand Clémenceau, pas prévu au programme, j'entends pour la parole, inquiet de l'issue du débat, demande la parole. On le sent exaspéré par les attaques de la droite et ses frémissants de colère contenus qu'il commence par proclamer que le gouvernement ne se propose pas de juger l'œuvre littéraire d'Émile Zola. Puis il magnifie en termes superbes l'acte de Zola, cette résistance aux foules bien plus héroïque que celle de résister au roi. Zola a affronté son pays, son gouvernement et une opinion publique affolée. Il eut affronté l'humanité tout entière pour la justice et pour la vérité. Et c'est bien cela, s'écrie le tigre, c'est un acte qui n'est commun dans l'histoire d'aucun peuple. Quand Zola a écrit sa lettre J'accuse, je peux vous l'avouer, je l'ai désapprouvé moi le soir même. J'ai dit à Zola, vous allez trop loin. Et bientôt, j'ai dû reconnaître et comprendre que c'était lui qui avait raison contre moi. Ironique, à l'égard de Lascaz et de Pontier, mais sans doute aussi du valeureux et très estimé Lintilhac, Clémenceau s'indigne. Vous êtes venu ici éplucher les termes de la lettre J'accuse. Mais ce n'est rien, cela. Il faut voir le geste, la grandeur, le courage, l'héroïsme de l'action. Voilà par quoi Zola a été grand. Voilà par quoi il a bien mérité de son pays. Il s'est jeté tout entier. Il a donné sa fortune, son honneur, l'honneur des siens. Clémenceau évoque également les infamies contre son père, le père d'Émile, François Zola. J'étais là, je l'ai vu pleurer. Zola a dit, je continuerai. Voisant aussi bien la droite que sa propre majorité, Clémenceau, la majorité qu'il appelle les muets du sérail, Clémenceau s'emporte. Eh bien maintenant, allez faire la critique de ses œuvres, allez faire la critique de ses actes. Il reste une chose que vous ne pouvez pas entamer, dont vous n'avez pas parlé, dont vous ne pouviez pas parler. Il reste l'acte d'une conscience noble, courageuse, qui a honoré son temps et son pays. Donc, Zola mérite le Panthéon. On applaudit Clémenceau, mais seulement à gauche. Le débat n'est pas terminé, la question demeure. Qui va-t-on mettre au Panthéon? Le Zola de J'accuse ou le Zola romancier? Le vieux sénateur René Béranger, 76 ans, qu'on appelle le père la pudeur parce qu'il lutte, vous le savez, contre la pornographie, veut pousser Clémenceau dans ses retranchements en cherchant à lui faire avouer que le mérite de l'acte vient uniquement de ce que c'est à propos de l'affaire Dreyfus qu'il est intervenu. D'où le danger, selon Béranger, de réveiller les passions à peine éteintes et de faire à nouveau descendre l'affaire Dreyfus dans la rue. Malgré le trouble évident, dans beaucoup d'esprits, le vote est acquis. 150 voix pour, 107 contre, Alexandrine est soulagée. Elle écrit en décembre, si ce vote n'avait pas eu lieu hier, j'écrivais au Sénat mon refus à jamais. Car il ne faut pas oublier que tout est entre les mains d'Alexandrine. Elle a parfaitement le droit de refuser la panthéonisation à n'importe quel moment. Et elle dit, car j'étais indignée des tergiversations du Sénat. Et elle ajoute, Clémenceau hier a bien mérité de ma profonde gratitude, car sans lui, ce vote n'eût pas eu lieu, il faut bien le dire. Et elle le redira encore, Vous savez que le vote du Sénat n'a été bon que grâce à Clémenceau, qui a atteint une beauté encore inconnue par sa chaleur à plaider cette cause. Enfin, la chose est faite. Tout est pour le mieux. Pauvre Alexandrine, elle ne sait pas qu'elle devra attendre encore presque 2 ans avant l'apothéose finale. Voyons les étapes. Donc, la loi est ratifiée par Falière le 15 décembre et on discute avec Alexandrine de la date. Alexandrine propose le 2 avril 1907 qui tombe, et mesdames et messieurs, il faut faire très attention au jour de la semaine, un mardi, parce que c'est la date anniversaire de la naissance de son cher mari. Mais le climat social est tel, avec les révoltes des vignerons du Midi, que le gouvernement tergiverse au point d'envoyer maître Louis Lebois, l'ami de Picard, auprès d'Alexandrine, absolument stupéfaite, de s'entendre proposer de remettre sine die la date du 2 avril, puisqu'on dit Lebois, qu'elle est mécontente de la loi nouvelle. Les amis s'indignent. Pas question de renoncer. Et impossible de croire un ajournement définitif de la part de Clémenceau. Penaud, Lebois se retire, mais une nouvelle date est proposée le 27 juin, qui tombe un jeudi. Le 17 juin, Aristide Briand, garde des Sceaux, reçoit Alexandrine et Fernand Desmoulins. Tout semble réglé, mais un nouveau report est décidé à l'automne, refusé par la veuve, qui, souffrante, ne veut pas manquer sa cure habituelle en Italie. Ce report paraît très suspect à certains journalistes, dont Urbain Goyer, qui déverse son fiel dans les Dieppes le 12 juillet 1907. Et peu après, à la suite d'un article du Gil Blas, Alexandrine apprend affolée que la police a découvert un soi-disant complot des droites extrêmes pour renverser le cercueil de Zola dans la Seine lors du passage de la rive droite à la rive gauche. Clémenceau a exigé une enquête qui n'a abouti à rien qu'un canular de journalistes en mal de copie. On arrive à 1908. Le 11 février, au Luxembourg, Clémenceau prononce un discours superbe sur Scheurer-Kestner, sans citer une fois Zola, et à peine Dreyfus présent ainsi qu'Alexandrine. 3 jours après, interviewée par Messidor, Alexandrine confirme la nouvelle date arrêtée, 2 avril 1908, qui tombe un jeudi. Y aura-t-il un cortège du cimetière Montmartre au Panthéon ? Non, répond Alexandrine, seulement une veillée, dans la nuit du 1er au 2 avril. Pourquoi cette insistance dans le choix de la date anniversaire ? Est-ce seulement symbolique ? Nullement. Alexandrine, on peut dire très fine mouche, a très bien compris, et sait parfaitement, que l'apothéose de Zola serait amoindrie, faute de liesse populaire, laquelle, à cette époque, ne peut s'épanouir que le dimanche, qui, à l'époque, est le seul jour chômé, ou alors, comme pour Victor Hugo, un lundi, par suite de funérailles nationales exceptionnelles. Mais la fête, c'était, vous le savez, déjà répandue la veille dans la ville, donc le dimanche, comme on sait. Mais le climat social est de plus en plus lourd, avec des grèves à répétition, très durement réprimées, au point de faire se fissurer le bloc des gauches, sous la pression du syndicalisme révolutionnaire et des socialistes eux-mêmes bousculés par les herbistes. D'où les craintes très justifiées et d'Alexandrine et du gouvernement de panthéoniser un dimanche. Car les ouvriers, furieux, déçus par la politique de Clémenceau, qui recule les réformes promises, pourraient en profiter pour faire du grabuge, à la fois contre la droite et contre la police et l'armée, bref, gâcher la grande fête espérée. Mais rien ne pouvant se faire sans un vote des crédits destinés à la cérémonie, on s'achemine vers un débat à la Chambre fixé au 19 mars 1908. Entre alors en scène l'un des plus illustres chantres de la droite, Maurice Barrès, qui attaque férocement Zola dans son journal L'Écho de Paris et qui redouble de violence à la Chambre le 19 mars puisqu'il est député du quartier des Halles. Il faut un superbe discours de Jaurès, très hostile au gouvernement. Le pauvre Jaurès, ce jour-là, il est pris entre deux feux. D'une part, il traite Clémenceau de vieillard sanglant. D'un autre côté, il a signé la loi à la Chambre pour, n'est-ce pas, emmener Zola au Panthéon. Donc, finalement, le vote intervient en faveur des crédits. 356 voix pour contre 165. Le dernier espoir pour la droite, c'est le vote du Sénat. Aucunement pressé de débattre, même à quelques jours de la date prévue. Vous vous rendez compte, 19 mars, et la date prévue, c'est 2 avril. C'est alors que les embarras gouvernementaux s'accumulent. Toute la presse publie une lettre du descendant du maréchal Lannes, l'illustre soldat que toute la France connaît, menaçant de retirer du Panthéon la dépouille du maréchal si Zola y entre. Et voilà que la famille Carnot menace aussi de son côté de retirer du Panthéon tous les Carnot. À ce coup de pied de Lannes, Clémenceau semble désemparé et refile le dossier à Aristide Briand, le garde des Sceaux. Un véritable casse-tête juridique. On n'a jamais vu ça depuis Mirabeau et Marat. Un cas sans précédent, car enfin, Si on entre au Panthéon par une loi, peut-on en sortir sans une loi? L'État accorde-t-il seulement une hospitalité honorifique et le grand homme devient-il propriété nationale en n'appartenant plus à sa famille? Question. Misère de misère. Donc, et imaginez le chassé-croisé. Zola quitte Montmartre pour aller au Panthéon, et le jour même, l'âne quitte le Panthéon pour aller à Montmartre, puisque c'est sa première inhumation. Clémenceau, le 24 mars, envoie Dardard du Jardin Baumettre, sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, pour expliquer à Alexandrine qu'il faut renoncer à la date du 2 avril, étant donné la lenteur du Sénat, la proximité des vacances parlementaires, vacances de Pâques, et celle des élections municipales, et puis l'agitation de plus en plus virulente des ligues nationalistes. Le ministère annonce donc un report au 4 juin, un jeudi. Autre date symbolique, c'est celle du retour de Zola en France, vous le savez, en 1899. Écœurée par la situation où l'on se déchire sur des cadavres, Alexandrine déclare qu'elle refusera le transfert en cas de nouveau report. Peut-être, dit-elle, même le gouvernement serait-il heureux de se débarrasser ainsi de l'affaire Dreyfus et de mon mari, qui sait. En tout cas, je serais très heureuse finalement de leur faire ce plaisir. Devant ce nouveau recul, Barrès exulte. Il repart à l'assaut croyant à un ajournement définitif. Nous triomphons, dit-il, dans cette bataille Zola. Il accable à nouveau le romancier, traité d'esprit goujat, de vénitien, soutenu par une élite à rebours. Il invente un propos de Clémenceau qui aurait parlé de Zola comme d'une exubérance de cochonnerie. Il croit qu'il a fait reculer le pouvoir et empêché ainsi Zola de devenir, citation, un des patrons de la République que nul ne peut lire sans dégoût et qui nuit à l'honneur national. Il applaudit, Barrès, le beau mouvement, l'honorable retraite des troupes radicales, la retraite si digne, si décente du gouvernement et des sénateurs. Plongeant sa plume dans le curare, il termine ainsi que Clémenceau reçoive ici les félicitations que Jaurès va lui marchander. Au passage, Barrès a pris un malin plaisir à citer une opinion du vieux sénateur radical Ranc dans l'aurore du 26. Et Ranc dit, faut-il l'avouer, Zola n'irait pas au Panthéon, que cela me serait parfaitement égal. La presse de droite s'empare de ce propos, mais nullement offensée, Alexandrine répond dans l'aurore, « Bien certainement, cher monsieur, vous avez raison. Peu importe que mon cher mari ait les honneurs du Panthéon, il faut être nationaliste pour détourner de son sens votre pensée. » Sous-entendu, Zola à la limite. Sous-entendu, Zola à la limite n'a pas besoin du Panthéon pour sa gloire. Aux côtés de Barrès, entre alors en lice l'Action française, devenue encore plus nocive grâce à son organe de presse imprimé quotidiennement depuis le 21 mars. 1908, ce qui est une des dates capitales de l'histoire de la Troisième République. On peut résumer tout son programme anti-Panthéon par cette affiche placardée dans tout Paris, et que je me permets de vous lire parce qu'elle explique absolument toute la politique à ce moment-là de l'extrême droite. Patriote français, la scandaleuse apothéose du Vénitien Zola, insulteur de la France, champion du traître Dreyfus. Vous voyez que malgré l'arrêt de la Cour suprême de 1906, en 1908, on n'hésite pas à traiter partout Dreyfus de traître. De ce côté-là, est encore une fois ajourné. Les Picards, les Clémenceau qui doivent à Zola leur portefeuille ministériel, craignent la colère du peuple en n'osant pas acquitter leurs dettes. La République a peur de la patrie. Montrons à ce gouvernement, en attendant de le chasser lui-même, que, pas plus en juin qu'en avril, nous ne voulons de son Zola. La fête ignoble est retardée, c'est bien, mais il s'agit maintenant qu'on nous en reparle jamais. De son côté, Anatole France se désole devant un recul qu'il juge incompréhensible. L'ouvrier parisien pense aussi peu à l'affaire Dreyfus qu'à l'affaire Calas. Il se soucie aussi peu de la victoire de Zola que de la victoire de Voltaire. De ce côté-là, le gouvernement n'a rien à craindre pour l'ajournement de la cérémonie. La bourgeoisie radicale elle-même est fatiguée de l'affaire. L'indifférence et la lassitude ont déjà gagné les intellectuels. Anatole France ne comprend pas la faiblesse d'un tel ministère qui doit organiser une cérémonie de réparation qu'il a lui-même réclamée. Elle fait une impression très fâcheuse sur le pays, où l'esprit nationaliste se réveille, où on remet l'affaire en question, au détriment des républicains de gauche. Et France ajoute, on renie à présent Zola, on l'insulte, on le menace, comme au beau jour de l'affaire. Les affiches à Paris traitent son œuvre de fumier et d'ordure. Évidemment, effectivement, Zola est attaqué encore plus bassement, peut-être que de son vivant, comme au cours du meeting de l'Action française du 30 mars, où le général Mercier idole des nationalistes, le grand criminel en chef de l'affaire, déclare « Je crois qu'aucun de vous ne peut concevoir le moindre doute sur les sentiments d'indignation que m'inspire le projet de déshonorer le Panthéon en y introduisant avec le concours de l'armée les cendres de l'insulteur de cette armée. » Toujours la débâcle. « Bravo !» s'écrie le publiciste de gauche Maurice Kahn. « Voilà donc où nous en sommes par la faute du ministère Clémenceau, 2 ans à peine après l'arrêt définitif de la Cour de cassation. Voilà l'aboutissement de 2 années de politique radicale. Voilà l'œuvre du dreyfusisme au pouvoir. Il manquait à Clémenceau et à Picard de recevoir publiquement les félicitations de Maurice Barrès et de mériter les sympathies du général Mercier. Évolution logique, attendue, nécessaire. Et c'est le châtiment de Clémenceau et des radicaux qui ont la faiblesse de les suivre. Ils sont, dans cette affaire Zola, obligés de verser nettement à droite en cédant la place à leurs pires ennemis. En effet, du moment que les nationalistes s'élevaient contre le transfert des cendres de Zola au Panthéon, le gouvernement n'avait à choisir qu'entre 2 alternatives. Ou imposer le transfert malgré les criailleries nationalistes, ou, sous un prétexte quelconque, ajourner la cérémonie. Il a choisi la seconde, il ne pouvait pas faire autrement. Car pour imposer le transfert, il aurait fallu un déploiement de forces militaires et policières qui eût proclamé la faiblesse du gouvernement et qui, à la veille des élections municipales, aurait donné trop beau jeu aux victimes des charges de cavalerie. Il faut croire que Clémenceau, durement étrillé, a su travailler sa majorité puisque le Sénat vote in extremis, avant les vacances de Pâques, les crédits, 35 000 francs, par 178 voix contre 98, à l'issue d'un baroud d'honneur de la droite, battu mais tirant une dernière salve à boulet rouge contre le pornographe défendu par la franc-maçonnerie. Enfin, Alexandrine respire, et le gouvernement aussi, soulagement et allégresse, vont revenir dans le camp Dreyfusard, ce camp que Léon Daudet, vous le savez, a appelé d'une formule assez étincelante, les Dreyfusolards, et nous sommes tous ici, mesdames et messieurs, bien sûr, des Dreyfusolards. Voilà pour ces premières difficultés. Alors, je passe très vite sur la suite. Hein. La seule fête populaire a lieu, vous le savez, le 12 avril à Suresnes, parce que c'est un dimanche. Donc, on inaugure une statue de Zola à Suresnes, de beaux discours, en particulier de Louis Havet. Au même moment, le quartier latin s'embrase, parce que l'Action française veut absolument dominer les facultés, les lycées du quartier latin. Et on arrive au 3 juin 1908, c'est-à-dire au transfert du cimetière de Montmartre au Panthéon. Et vous savez qu'aussi bien la presse de gauche que la presse de droite s'étonnera et critiquera, avec autant de virulence parfois à gauche qu'à droite, le fait que ce soit passé à la cloche de bois. C'est-à-dire, pas de cortège, le cercueil, vous le savez, est retiré du cimetière Montmartre, il est mis dans un fourgon. Le préfet Lépine, qui est malin, a tout prévu. Donc, il y a des journalistes qui ont loué déjà depuis des heures des fiacres. Donc, le fourgon mortuaire quitte le cimetière de Montmartre, commence à descendre la rue Blanche, barrage organisé par Lépine, les voitures des journalistes s'enchevêtrent les unes dans les autres, et voilà que le fourgon part tout seul, tranquille, avec Lépine simplement devant, descend la Trinité, l'Opéra, et alors on a ce spectacle absolument stupéfiant, vous voyez, dans la vue de l'Opéra. Il y a des gens qui voient un fourgon mortuaire avec des couronnes, n'arrivent pas à lire très bien que c'est pour Zola, et tirent la casquette, tirent le chapeau, ce signe de croix, sur le passage, tout simplement, d'un fourgon mortuaire, sans savoir que dans le fourgon, il y a Émile Zola, avec d'ailleurs Alfred Bruneau et Fernand Desmoulins. Donc, dès qu'on arrive au quartier latin, alors là, c'est l'effervescence, des milliers de manifestants attendent de pied ferme le fourgon, qui se range avec le cocher, pas qui cingle une fois de plus ses chevaux devant le Panthéon. Alexandrine, elle est venue en taxi avec Jeanne et les enfants, mais on a arraché les couronnes, on l'a reconnue dans la rue Soufflot, on a arraché les couronnes, la pauvre Alexandrine est complètement défaite. Quand elle sort, elle entend les hurlements « Abba Zola, conspé Zola, mort à Dreyfus, mort aux Juifs ». Elle s'écroule presque évanouie dans les bras de Dujardin à Beaumetre, lequel dit « c'est épouvantable ». Bon, tout le monde entre dans le Panthéon, c'est-à-dire à peu près 100 de personnes, et commence une veillée funèbre que Alexandrine a voulu réserver aux seules personnes qui avaient veillé le corps de Zola lors de sa mort. Vous voyez donc le 29 septembre 1902. Cette veillée a été racontée, en particulier d'une façon superbe par Alfred Bruno dans ses souvenirs. Les journalistes ont remarqué que Alfred Dreyfus est arrivé avec Lucie Dreyfus à pied par l'arrière. Bon, mais il y a juste à côté de la grille un monsieur qui avouera ensuite très cyniquement lui avoir montré l'entrée, parce que Dreyfus a demandé où est l'entrée. Bon, où est l'entrée? Alors, il y a quelqu'un qui lui a indiqué l'entrée. Et ce quelqu'un, c'est le futur meurtrier du lendemain, Louis Grégory, qui dira en plein tribunal, cour d'assises, j'aurais pu le tuer, sans qu'il y ait de protestation. À ce moment-là, vous voyez, de la part du président du tribunal. Donc, vous savez que le lendemain matin, une très belle cérémonie a lieu, avec un protocole qui avait déjà été utilisé pour un an avant la mort, les obsèques de Marcelin Berthelot et de son épouse. Je n'insiste pas parce que l'exposition au Panthéon montre en détail, magnifiquement, puisqu'on peut la voir encore, a dit François Labadin, jusqu'à la fin du mois. Et évidemment, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore vue à se précipiter pour la voir. Et vous le savez, un seul discours, c'est le protocole. C'est le ministre de l'Instruction publique, Gaston Doumergue, qui a déjà très bien parlé à la Chambre pour les crédits et au Sénat, qui fait un beau discours. Je suis étonné qu'on le critique souvent parce que on aurait préféré. Alexandrine voulait évidemment brillant, grand orateur, et Clémenceau, encore plus grand orateur, au dire de Léon Blum lui-même, puisque vous savez que on parle beaucoup du grand orateur qui était Jaurès, mais que Léon Blum a dit au-dessus de Jaurès, il y avait un plus grand orateur qui était Georges Clémenceau. Bon, donc c'est l'opinion de Léon Blum. Alors, à la fin de la cérémonie, il y a un petit bonhomme qui est entré dans le Panthéon avec une carte de presse. Né en 1842, ancien normalien, promotion 1863, journaliste au Gaulois, s'occupant d'affaires militaires, s'étant occupé aussi d'affaires financières. Il a réussi à pénétrer à peu près jusqu'au premier rang. Et au moment de la sortie du Panthéon, au moment où Alfred Dreyfus s'est levé et attend qu'Alexandrine sorte et les autres personnes sortent sur le perron du Panthéon, Péristyle, pour assister au défilé militaire, sort un revolver qu'il avait déjà dans sa poche la veille, au moment où il a dit « j'aurais pu le tuer ». Ce n'est pas avec ses mains. Il avait déjà le revolver dans sa poche. Bon, donc, préméditation. Et il tire, vous le savez, deux balles sur Dreyfus. La première, il la lui tire dans le dos, ce que jamais Dreyfus ne pardonnera, puisqu'il dira surtout sa, la réplique de Dreyfus à propos de cet attentat, ce sera de dénoncer la lâcheté de Grégory. Pas tellement le geste, mais la lâcheté. Il m'a tiré dans le dos. C'est un acte lâche. Dreyfus a le réflexe de se retourner et il met sa main contre sa poitrine et la deuxième balle l'atteint à l'avant-bras, heureusement, sans nous enfoncer l'avant-bras. Bon, vous savez donc tout cela. Et on arrête immédiatement Grégory, on l'emmène au poste. Alors, les photos que vous avez dans l'exposition montrent ce spectacle assez hallucinant. C'est que vous avez Falière, le président de la République, tout le gouvernement, qui assiste à un défilé militaire. Et tout d'un coup, vous voyez un grand commissaire de police qui traverse le cortège, soit des sapeurs-pompiers, puisque c'est toute la garnison de Paris qui défile, hein, avec un petit bonhomme dont les vêtements sont complètement déchirés, parce qu'on a manqué le lyncher, évidemment, dans le Panthéon, parce qu'on s'est précipité sur lui. C'est d'ailleurs Mathieu Dreyfus qui lui a sauvé la vie. C'est Mathieu Dreyfus qui lui a sauvé la vie, parce qu'il a dit « arrêtez, arrêtez », il s'est mis en rempart devant, n'est-ce pas, Grégory. Donc, on l'emmène, et puis, à ce moment-là, le Grégory entasse les mensonges, jusqu'à la fin, d'ailleurs, de son procès, hein, enfin, presque à la fin. « Je n'ai pas voulu tuer le capitaine Dreyfus, le traître, je n'ai pas voulu tuer Dreyfus, j'ai voulu tirer sur les dreyfusismes, j'ai voulu faire la révision de la révision. » Et le juge, après enquête, je vous passe toute l'enquête, finit par inculper Louis Grégory de tentative d'assassinat avec préméditation. Le procès a lieu les 10 et 11 septembre 1908, dans la même salle où 10 ans auparavant avait eu lieu le procès d'Émile Zola, 10 ans auparavant, dans la même salle. Et ce procès s'est terminé par un acquittement. Dans sa déclaration au juré, extraordinaire, parce qu'en fait, celui qui a le droit à la parole libre, c'est l'avocat. Mais on a laissé Grégory déblatérer comme il voulait. Il se vante, Grégory, d'avoir à ses risques et périls, parce que c'est lui la victime. C'est lui la victime, c'est pas Dreyfus. Dreyfus, c'est le coupable. Et pourquoi Dreyfus est-il le coupable? Parce qu'il est venu au Panthéon. Il n'aurait jamais dû venir au Panthéon. Donc, si Grégory a tiré sur Dreyfus, c'est pour le punir, en quelque sorte, vous voyez, d'avoir imposé sa présence. Et, en quelque sorte, s'il n'avait pas tiré dessus, bah, spectacle hallucinant pour Grégory, Dreyfus aurait été invité sur le péristyle et aurait vu l'armée française défiler également devant lui. Donc, il ose présenter Dreyfus comme toujours un traître, hein, et il accuse Zola également d'avoir été le promoteur de l'antimilitarisme en France. Grégory avance que la condamnation de Zola à propos de J'accuse subsiste toujours. Vous savez que donc il y a eu l'amnistie, mais pour Grégory, devant les jurés, il dit non, l'amnistie n'a pas effacé le procès Zola. Ce procès continue toujours et court toujours, et que donc l'accusation, le verdict de février 1908 contre Zola a toujours force de loi, que rien n'a effacé cette sentence ni ne l'a cassée. Stupéfiante négation, évidemment, de l'amnistie. Il déclare que l'arrêt de 1906 est une erreur judiciaire absolue, doublée d'une violation flagrante de la loi. D'où son geste. Grégory, donc, a avoué avoir été présent, et il ajoute, il s'en prend au gouvernement, qu'il nomme le gouvernement de Dreyfus, car c'est le nom que portera dans l'histoire le gouvernement actuel, qui a convoqué l'armée pour rendre les honneurs militaires à la trahison de Dreyfus et à l'antimilitarisme de Zola. Et, dit Grégory, ils sont tous complices, les gouvernants, les chefs Dreyfusards, les sénateurs, les députés ayant voté la parade du Panthéon, Falière, président non de la République mais des cérémonies Dreyfusards, Clémenceau, le vieux stipendier des Juifs, Picard, l'ex-lieutenant-colonel en réforme, Bombardier général et ministre de la guerre plus vite et plus haut qu'un Bonaparte pour service exceptionnel dans la campagne de réhabilitation du traître. Et il dit ça dans la cour d'assises, devant le président de la cour d'assises. Pour finir, mesdames et messieurs, pour finir, deux réflexions. Deux interrogations qui, pour moi, sont liées l'une à l'autre. Pourquoi l'acquittement de Grégory? Stupéfiant. Parce que Grégory a fini par avouer la préméditation. Le président, très intelligemment, le président Duval, lui a fait avouer la préméditation. Et le procureur, l'avocat général à la cour, a dit, bon, monsieur Grégory est vieux, on ne va pas le condamner à mort, de toute façon il n'y a pas de condamnation mort pour cela, on ne va pas l'envoyer au bagne, on met quand même un peu de prison. Un peu de prison, ça ne ferait pas de mal. Au moins, une certaine sanction. Aucune. Acquitté. Acquitté, et évidemment, vous devinez le succès de cet acquittement du côté de la droite. Pourquoi autant de haine 2 ans après l'arrêt de la Cour de Suprême? Pourquoi autant d'outrances effrénées contre le Zola de J'accuse, qui avait eu raison quasiment sur tout? Pourquoi cette haine contre Dreyfus, toujours traître, bien que parfait innocent, et innocenté judiciairement? Pourquoi tant de haine contre les Dreyfusards, contre les étrangers, contre les Juifs? Ce n'est pas à cause principalement de l'arrêt de la Cour, immédiatement contesté par la droite extrême, qui fera du fameux article 445, soi-disant faussé par la Cour, son talisman. C'est l'expression de l'Action française, le talisman. La Cour suprême a mal jugé, elle a mal interprété le fameux article 445, qui aurait dû, selon l'Action française et tous les anti-Dreyfusards, renvoyer une nouvelle fois Dreyfus devant un conseil de guerre. Pour ma part, je pense de plus en plus que c'est à cause de l'amnistie de 1900. Traité à juste titre de loi scandaleuse et scélérate par Zola dans ses lettres au Sénat et à Loubet, que je considère aussi pour ma part comme des chefs-d'œuvre d'argumentation et tout à fait prophétique si l'on songe à la période 1900-1945 jusqu'au procès de Charles Maurras. Selon Waldeck-Rousseau, président du Conseil en 1999 et en 1900, L'amnistie devait tout apaiser. Pour en finir avec l'affaire, elle devait supprimer, selon Waldeck, le poison de la xénophobie, de l'antisémitisme et ramener la concorde au sein de la société. Elle procédait même d'un véritable chantage. Si vous ne voulez pas étouffer ou qu'on étouffe les affaires pendant Zola, les procès Zola, Picard, Renac, vous n'aurez pas les réformes promises. Mirand, Jaurès lui-même et d'autres socialistes ont suivi Émile Zola. Ont suivi Waldeck-Rousseau. Et ils ont accepté cette application de la pure raison d'État. La pure raison d'État. Et cela au prix de l'absence de tout jugement des vrais coupables, avant même, vous voyez, évidemment, le moindre jugement, de ceux qui seront déclarés criminels dans le réquisitoire, et ça on l'oublie trop souvent, du procureur général Baudouin en 1906, lors de la seconde révision, mais devenu intouchable à cause de l'amnistie. Et le procureur Baudouin l'avait dit, ce sont des criminels, mais je suis ligoté, il l'a dit en 1906, à cause de l'amnistie de 1900. Ils sont intouchables. Et le 13 juillet précensé, dans cette fameuse journée où on a rétabli la loi pour Dreyfus et pour Picard, il l'avait dit, mais je m'en fiche de l'amnistie. Vous devez prendre des sanctions contre les généraux coupables. Vous ne devez pas laisser ces gens dans le statut honorifique où ils sont. Ce sont des criminels. Eh bien, comme disait Zola, on jetait dans le même sac les honnêtes gens et les coquins. D'où une équivoque qui a, selon, c'est le terme de Zola, qui a selon moi pesé sur tout le cours de l'histoire de France de 1900 à 1945, car en amnistiant par avance les criminels, le Parlement sollicité par Waldeck-Rousseau, selon Zola, a enténébré la conscience du peuple, a aidé toujours, selon Zola, à la démoralisation des petits en obscurcissant chez eux le sentiment du juste. Je ne peux pas, mesdames et messieurs, m'empêcher de penser que pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous le régime de Vichy, les gendarmes qui ont arrêté la conscience tranquille des femmes, des enfants, des vieillards qui ont fait la rafle du Veldiv n'étaient pas justement des gens qui étaient habités par, sans le savoir peut-être même, mais tout simplement par une espèce de consensus dans la société française de cet équivoque. Ah oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu, donc Dreyfus doit être quand même, n'est-ce pas, coupable quelque part. Et le constat de Zola est, comment dire, affirmatif. C'est son constat. Du moment qu'il n'y a pas de puni, il n'y a pas de coupable. Et si on relit la presse de 1900 à 1945, et mesdames et messieurs, même au-delà, eh bien c'est la phrase de Zola qui rejaillit. Du moment qu'il n'y a pas de puni, il n'y a pas de coupable. Et songez, mesdames et messieurs, qu'il aura fallu attendre 95 ans, 1995, pour que l'armée française reconnaisse ce que demandait Zola. C'est-à-dire, non pas que l'affaire Dreyfus était une erreur judiciaire, mais une conspiration militaire. Parce que c'est trop facile, l'erreur judiciaire. Il y en a plein, des erreurs judiciaires. Mais en 1995, pour la première fois dans notre histoire et officiellement, un général a dit, hein, non, ce n'est pas seulement une erreur. Nous reconnaissons que c'était une conspiration militaire. Et c'est exactement ce qu'avait toujours dit Zola, et c'est exactement ce que Zola demandait que l'on reconnaisse. Il fallait porter la hache. Au lieu de quoi, l'amnistie est devenue, dit Zola, une arme nouvelle aux mains de la faction qui a exploité l'affaire pour que la France républicaine en crevât et continuera à l'exploiter, d'autant plus que votre amnistie va donner force de loi à l'équivoque, sans que la nation puisse désormais savoir de quel côté était la vérité et la justice. Zola a mieux perçu que quiconque que la loi d'amnistie allait être, citation, une trahison civique, l'abandon de la République aux mains de ses pires ennemis. Je n'ai pas le temps, mais si on regarde un peu la formation, le passé, je dirais presque l'environnement familial, de ceux qui ont rédigé le statut des Juifs en 1940, avant même que les nazis n'aient demandé quoi que ce soit. Ce sont des gens qui étaient habités par l'équivoque, c'est-à-dire pour qui la question n'était pas tranchée, et pour qui, pauvre Waldeck, je le plains, grand juriste, homme extraordinaire, il avait cru qu'avec l'amnistie, on supprimait l'antisémitisme, qu'on supprimait le racisme, qu'on supprimait la xénophobie. Eh bien, mesdames et messieurs, n'insistons pas sur ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc, Zola ajoutait, l'histoire dira la criminelle faiblesse de l'idée qu'on sauve un peuple d'un mal dont il est rongé en décrétant que ce mal n'existe plus. Dira-t-on que Zola réagissait en poète, affamé de justice idéale ? Était-il seul ? Alors, je viens de trouver une citation que j'ignorais, et je souhaite d'ailleurs que cette citation, extraite d'une lettre qui sera vendue à Drouot le 14 octobre de ce mois-ci, hein, une lettre de Gabriel Monod, le grand historien, la première République, fondateur de la revue historique, je ne dis pas le prix, mais j'espère que nous pourrons avoir l'intégralité de cette lettre et qu'elle ne sera peut-être pas conservée dans des mains privées. Voilà ce qu'écrivait Monod. Nous n'avons pas affaire au poète Zola. Nous avons affaire à un des maîtres de la critique scientifique et historique de notre histoire de France. Aussi longtemps qu'officiellement le bien pourra être appelé le mal, et le mal bien, l'innocence crime et le crime innocence, il n'y aura point d'apaisement possible en France. La réconciliation nationale ne pourra se faire que le jour où toutes les choses seront remises à leur place par la punition des coupables et la réhabilitation des innocents. L'amnistie qui eût été légitime et bienfaisante si la vérité proclamée par la Cour de cassation avait reçu à Rennes, nous sommes en 1900, hein, nous sommes après l'arrêt de la première révision. Nous sommes avant l'arrêt de la seconde révision de 1906. Mais vous voyez que déjà pour Monod, les choses sont claires, les choses sont simples. Ne serait plus après la sentence ambiguë qui a été rendue, c'est-à-dire le procès de Rennes, qu'une de ces circonstances superficielles sous lesquelles le mal caché continue à suppurer. Eh bien, nous savons que ce mal a suppuré, au moins jusqu'au procès Maurras. Et voilà ma deuxième réflexion, mesdames et messieurs. Dans le climat de la terrible année 1908, où jamais un tel déluge de haine ne s'est déversé sur Zola et sur Dreyfus depuis le paroxysme des années 98-99, c'est un vrai miracle pour moi, opinion personnelle, que la panthéonisation ait eu lieu suite à tant d'incroyables ajournements. Alexandrine a tenu bon en dépit de ses colères légitimes contre les faux fuyants, et Clémenceau a mené à bien son idée. C'est l'expression d'Alfred Bruneau, l'idée de Clémenceau. Ce n'était pas l'idée, puisque c'était la loi votée à la Chambre des députés, mais celui qui s'est emparé de l'idée et qui l'a menée jusqu'au bout, c'est Clémenceau, en dépit de tous les obstacles et des craintes de sa majorité, et des craintes d'Alexandrine elle-même. Car lui-même, Clémenceau s'était déchaîné contre l'amnistie, restant d'ailleurs aux yeux de Zola qu'il a écrit « Clémenceau, vous êtes le dernier brave, car vous continuez à combattre l'amnistie, comme le prouvent ses articles réunis dans La Honte ». La Honte, c'est le septième tome des 4000 pages que Clémenceau a écrit sur l'affaire Dreyfus, et vous le savez, ces 7 volumes ont été retirés par un décret du gouvernement de Vichy le 4 avril 1941 et interdits dans toutes les bibliothèques publiques en France. J'essaye de les rééditer, j'en suis à peu près au tome 4. Bon, mais il en reste encore, vous voyez, 3 et La Honte, dans lequel est racontée admirablement toute l'histoire de l'amnistie, c'est le tome 7. J'espère que je le verrai. Bon, quelles qu'aient été ses propres erreurs politiques à la base de ses atermoiements, car Clémenceau a commis beaucoup d'erreurs, il a plus que tout autre contribué à cette difficile mais éclatante réussite. Et ce n'est pas Jaurès, le grand Jaurès, absent à la cérémonie et violemment hostile aux briseurs de grève, aux vieillards sanglants, à l'assassin. Songez que le 4 juin, au moment de la cérémonie du Panthéon, à la Panthéon, à quoi pense-t-il Clémenceau qui est assis à côté de Falière? Il est assis, enfin, juste à côté, parce qu'il y a le président de la Chambre, le président du Sénat. Clémenceau est un peu en bas. Il pense à ce qu'il va dire l'après-midi à la Chambre, parce que les gendarmes ont tiré contre des ouvriers à Draveil, dans les sablières de la Seine, le 2 juin, qu'ils ont tiré dans un café où ils n'avaient rien à faire, ils ont poursuivi un ouvrier parce qu'ils croyaient le reconnaître, ils ont fait un massacre, et le 4 juin, on enterre l'un des ouvriers de cette tuerie de Draveil. Donc le père Clémenceau, vous imaginez ce qui va lui arriver l'après-midi. C'est-à-dire qu'il va non seulement être attaqué par les socialistes, par Jaurès, mais par sa propre majorité radicale, qui vont lui demander des comptes. Et voilà l'expression « vieillard sanglant, vieillard assassin ». Le climat, vous le voyez, est terrible. Et en résumé, pour l'honneur de la République, la panthéonisation de Zola a été la seule vraie revanche de l'amnistie. Et je terminerai par la petite anecdote. Il veut que les haines étant du côté de la droite, on pourrait presque dire indéfectible, en 1920, vous savez qu'il y a eu un débat à la Chambre pour savoir où est-ce qu'on va mettre le soldat inconnu. Alors, grand débat, et un député dit, on va le mettre au Panthéon. Et le député Léon Daudet, grand ami, tout jeune de Zola, et fils d'un des plus grands amis de Zola, Alphonse Daudet, se lève en disant, au Panthéon, mais ce serait un scandale inouï. Les ossements sacrés du soldat inconnu, à côté des ossements pourris de cette pourriture de Zola, mais vous n'y pensez pas. Alors, un journaliste lance, bon, ben, si vous n'en voulez pas au Panthéon, on va le mettre à l'Arc de Triomphe. Et vous voyez, mesdames et messieurs, pourquoi la tombe du soldat inconnu, si elle est à...
C'est rare d'entendre parler un historien, mais quand c'est un grand historien, c'est une très belle leçon. Alors, il me reste à donner quelques informations pratiques. Vous m'excusez de revenir ici. La première, c'est que pour ceux qui sont arrivés par le train, vous pourrez admirer l'exposition que Martine Leblond a choisi de nous présenter cette année. Il s'agit de l'extraordinaire collection de Michel et Guy Crépin, notamment sur Zola au Panthéon. Et monsieur et madame Crépin nous font l'amitié d'être là et proposent, pour ceux qui le veulent, de commenter cette exposition tout à l'heure. Deuxième chose que je me dois de dire, c'est que l'Assemblée générale de la Société littéraire des Amis d'Émile Zola est convoquée pour le mardi 6 janvier 2009 à 17h au Centre Zola rue Laumont, ce qu'apprennent automatiquement les lecteurs des cahiers naturalistes. Pour lire les cahiers naturalistes, c'est très simple, il suffit d'être membre de la Société littéraire. J'ajouterai que c'est là que paraissent les textes des allocutions de nos invités. Alors si vous avez envie de retrouver les textes des allocutions d'aujourd'hui, n'hésitez pas, et Alain Pagès nous concoctera pour l'année prochaine encore un de ces merveilleux cahiers naturalistes. Je vous rappelle que les cahiers naturalistes sont sans doute la revue littéraire au monde qui est la plus importante dans le domaine des associations. Troisième chose qu'il faut bien que je vous dise, c'est que le train, s'il n'oublie pas de s'arrêter, passe à 17h25. Donc, il y a un tour assez grand à faire. N'hésitez pas quand même à partir un peu avant, de peur de le rater. Pour les gens qui se sont inscrits pour la visite de la maison, près des bancs sur la droite, quart d'heure par quart d'heure, les visites se feront. Je voudrais, en terminant, adresser un message à Saint-Zola météorologue pour lui dire que quand même cette année c'était juste, que nous avons frôlé la pluie et que j'aimerais bien pour l'année prochaine un peu de soleil. À l'année prochaine donc.